VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Au sommaire de ce journal, au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Lutte anticorruption au Sénégal, le gouvernement annonce avoir recouvré près de 153 milliards de francs CFA en 5 ans. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle prend des mesures qui pourraient conduire à la destitution du président Zuma. Et un enfant de 3 ans serait à l'origine de l'incendie de l'immeuble à New York qui a fait 12 victimes, dont 4 enfants, hier soir. Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et l'économie, mais d'abord le journal. Au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté sa démission au président Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que celle des membres du gouvernement. Le président l'a accepté. Bagassi Koura.
Oui, selon un communiqué de la présidence dont VOA Afrique a eu une copie, dans sa lettre de démission, le Premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui avoir donné l'opportunité de servir le Mali pendant cette exaltante période à des niveaux de responsabilité aussi importants. Le Premier ministre a donné l'assurance au président de sa disponibilité à servir le Mali. Abdoulaye Idrissa Maïga, 59 ans, cadre influent du RPM, le parti présidentiel, avait été nommé le 8 avril dernier au poste de Premier ministre. Il occupait auparavant le portefeuille de la Défense.
Bagassi Koura, Abdoulaye Idrissa Maïga, qui n'a pas fourni d'explication officielle, est le quatrième Premier ministre du président Ibeka à démissionner de ses fonctions depuis 2013. 9 personnes ont été tuées aujourd'hui au sud du Caire dans une attaque contre une église menée par un djihadiste armé. La dernière en date a visé la minorité chrétienne depuis le début de l'année en Égypte. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, Salwa Jafari.
Devant l'église de Saint-Mina de Hilouane, une foule en colère. L'attaque a été fulgurante.
3 hommes masqués à moto ont tiré sur l'un des agents de sécurité de l'église et un propriétaire de magasin. Et ils ont également tiré sur une femme traversant la rue.
Les images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'assaillant présumé, un homme barbu portant une veste avec des munitions étendues sur le sol, qui semble être peu conscient alors qu'il se faisait menotter. Le ministère de l'Intérieur a en effet précisé dans un communiqué que l'assaillant, djihadiste recherché pour des attaques contre la police, avait été blessé et arrêté. L'homme était armé de fusils d'assaut, de munitions et d'une bombe qu'il avait l'intention de faire exploser dans l'église. Depuis décembre 2016, des dizaines de chrétiens, essentiellement des coptes, ont été tués dans des attaques contre des églises ou des attaques ciblées dans la péninsule du Sinaï et ailleurs dans le pays.
Salwa Jafari, et les réactions se succèdent. Après l'attentat, la France a exprimé son soutien, mais aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pays alliés de l'Égypte, qui ont condamné l'attaque et apporté leur soutien, tout comme le Qatar, avec lequel le Caire a pourtant rompu ses relations au mois de juin, au motif que cet émirat du Golfe soutient le terrorisme. Doha a assuré l'Égypte de son ferme rejet du terrorisme. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, figure politique centrale de la Cyrénaïque, région de l'est du pays, a indiqué qu'il appuyait la tenue d'élections en Libye en 2018, comme le souhaite la communauté internationale. Ces élections font partie du plan d'action présenté en septembre par l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Hassan Salamé. En République démocratique du Congo, 12 militants du mouvement citoyen La Lucha ont été arrêtés à Kananga, dans le centre du pays, alors qu'ils manifestaient contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. Norbert Dibelaï, chargé de la communication du mouvement, affirme avoir été roué de coups ainsi que ses compagnons au commissariat provincial de la police par le maire de Kananga, Jean Mwamba Kantou, joint par nos confrères de l'agence France Presse. Le maire de Kananga a refusé de réagir aux accusations de Lucha. La police ougandaise a annoncé aujourd'hui avoir inculpé pour terrorisme 45 citoyens rwandais. Ils ont été arrêtés le 11 décembre à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le porte-parole de la police ougandaise, Emiliane Kayima, a indiqué que 43 Rwandais ont d'abord été arrêtés à la frontière avec la Tanzanie le 11 décembre dernier. Les deux autres, eux, ont été interpellés plus tard après une enquête plus poussée, selon M. Kayima, qui affirme qu'ils avaient tous de faux documents d'identification et de voyage. Le porte-parole de la police a précisé que l'enquête a été menée à son terme et les 45 Rwandais ont été interpellés de possession de faux documents. À cela s'ajoutent des accusations de terrorisme, leur intention pointant vers cela, ont affirmé les autorités policières ougandaises. D'après M. Kayima, les suspects sont détenus à la prison de Nalufenia, réservée aux personnes suspectées de terrorisme ou d'implication dans des groupes rebelles. Ces 45 Rwandais vivaient en Ouganda et soutiennent qu'ils se rendaient en mission évangélique en Tanzanie. Le Rwanda les accuse d'être des membres du Congrès national du Rwanda, parti d'opposition en exil, formé par d'anciens proches du président Paul Kagame, qui les qualifie de terroristes.
Au Togo, les manifestations qui se sont déroulées hier dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition pour protester contre le régime de Faure Gnassingbé ont fait 12 blessés, dont 5 graves, un bilan avancé par la coalition Runani-Ragaïma.
Les 5 blessés graves sont actuellement en soins intensifs, selon Antoine Folly, porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition, lors d'une conférence de presse. Il a fait également état d'une quinzaine d'arrestations en marge de marches qui ont été dispersées jeudi soir par des tirs de gaz lacrymogènes. Les milliers de manifestants qui protestent depuis plus de 4 mois pour demander une limitation du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé n'ont pas suivi l'itinéraire prévu par les forces de l'ordre et se sont rendus à Décon, dans le centre-ville, en fin de journée, malgré la mise en garde du ministre de la Sécurité, le colonel Yak Dameham, qui les avait invités à se conformer scrupuleusement au point d'accord convenu avec le gouvernement. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est à la tête du Togo depuis 2005, succédant son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Un projet de révision de la Constitution est en cours, mais la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels n'est pas rétroactive et autoriserait le président de se représenter en 2020, puis en 2025, ce que rejette l'opposition.
Au Sénégal, le gouvernement a annoncé avoir recouvré près de 153 milliards de francs CFA, soit plus de 234 millions d'euros depuis 2012, dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite engagée sous le président Macky Sall. Le gouvernement affirme que ces fonds ont été, au fur et à mesure, reversés dans le budget de l'État en 2013, 2014 et 2015, sans que ne soient précisées les personnes, les sociétés ou les institutions concernées par ce recouvrement. Mais pour les opposants au président Sall, la lutte contre l'enrichissement illicite est en réalité une campagne ciblée pour éliminer des adversaires politiques. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a ordonné aux députés de mettre en place un mécanisme qui pourrait mener à la destitution du président Jacob Zuma. La plus haute juridiction du pays reproche au Parlement de ne pas avoir demandé des comptes au président Zuma sur la rénovation de sa résidence privée qui a scandalisé l'opinion. Les travaux ont été faits aux frais du contribuable pour un montant estimé à environ 15 millions de dollars.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon des sources policières ici aux États-Unis, c'est un enfant de 3 ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz qui a déclenché hier l'incendie qui a coûté la vie à 12 personnes, dont 4 enfants. L'incendie le plus grave en plus de 25 ans. Retour sur les faits, Solange Nyamulisa.
La police a annoncé que 3 petites filles âgées de 1, 3 et 7 ans, ainsi qu'un garçonnet de 7 ans, ont perdu la vie dans cet incendie, le pire qu'ait connu la ville depuis plusieurs décennies. 8 adultes, 4 hommes et 4 femmes ont également trouvé la mort dans ce sinistre. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue et doit être déterminée par les enquêteurs. Le feu s'est rapidement propagé du rez-de-chaussée aux 4 étages de cet immeuble de briques, comme il y en a des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements. 10 personnes avaient été tuées en mars 2007 quand un feu avait ravagé une maison, également dans le Bronx. Il s'agissait alors du pire incendie dans la ville depuis 1990, à l'exclusion des attentats du 11 septembre 2001.
Israël a formellement notifié l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement dit l'UNESCO, de son retrait annoncé en octobre en pleine élection du directeur général de l'organisation. C'est ce qu'annonce l'UNESCO aujourd'hui. Le 12 octobre, juste après que les États-Unis ont annoncé se retirer de l'UNESCO, Israël avait fait part d'une décision similaire, reprochant à l'organisation un parti pris anti-israélien et la qualifiant de théâtre de l'absurde où l'on déforme l'histoire au lieu de la préserver. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a estimé aujourd'hui absurde que le président catalan destitué, Charles Puigdemont, veuille gouverner la Catalogne depuis la Belgique où il s'est réfugié pour échapper aux poursuites judiciaires. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Dili Dico.
Le cacao, le sucre et le café ont souffert en 2017, selon la revue annuelle des matières premières agricoles. Les récoltes abondantes ont pesé sur leurs cours. Ceux du sucre, qui avaient atteint en février leur plus haut niveau de l'année, ont reculé pour atteindre leur plus bas niveau au dernier trimestre de l'année. À la suite d'une saison record en Afrique de l'Ouest, favorisée par une météo clémente, le cacao est plombé par une récolte abondante. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a dû fixer des prix 40% plus bas que l'année précédente. Le Burkina Faso dispose depuis ce vendredi de la télévision numérique terrestre TNT. Le pays devient le premier pays d'Afrique de l'Ouest à basculer vers cette technologie permettant de diffuser plusieurs chaînes en qualité numérique sur une seule fréquence. Le lancement de la TNT a nécessité 45 milliards de francs CFA et concerne pour l'instant une quinzaine de chaînes avec un taux de couverture nationale de 70% du territoire burkinabé. La compagnie Apple s'est excusée jeudi d'avoir délibérément ralenti certains de ses iPhones pour compenser le vieillissement de leur batterie. Elle a également annoncé la baisse du coût de remplacement des batteries pour les iPhone 6 de 79 à 29 dollars. L'aveu d'Apple relance à nouveau le débat sur l'obsolescence programmée des appareils électroniques.
Au sport à présent avec vous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir, Anna.
Alors, c'est la fin de l'année, les festivités approchent, mais pas de réveillon pour les footballeurs en Angleterre.
Décidément, Anna, cette année encore, la Première Ligue enchaîne les 21e et 22e journées de dimanche à jeudi. Encore deux matchs pour les Citizens qui visent un record contre Crystal Palace dimanche, puis Watford mardi. En cas de victoire, les leaders de la Première Ligue égaleront puis dépasseront le record de 19 victoires consécutives du Bayern Munich dans un des grands championnats européens.
Le tout dans la plus grande sobriété.
Ah oui.
Loin de ses calculs, Mourinho, lui tacle Klopp.
L'entraîneur de Manchester United a souligné aujourd'hui le changement d'opinion de son rival Jurgen Klopp après l'achat mercredi par Liverpool du nouveau défenseur le plus cher du monde, Virgil van Dijk, 84 millions d'euros lors de l'été 2016, alors que Manchester United s'apprêtait à faire de Paul Pogba le joueur le plus cher du monde, 105 millions d'euros. Klopp avait expliqué vouloir rester fidèle à sa philosophie et construire une équipe plutôt que de dépenser l'argent du club dans des transferts de luxe. José Mourinho n'a pas manqué l'occasion de lui rappeler cela.
On imagine bien, plus que deux semaines avant le début du championnat d'Afrique des Nations, Maroc 2018, et les pays qualifiés s'activent.
Il y aura bien sûr de s'envoler pour la Tunisie où il doit effectuer un stage de 10 jours. Le Rwanda a dévoilé sa liste des 23 pour la compétition au Maroc. Rayon Sport FC et l'APR sont les clubs les plus représentés. Deux matchs amicaux contre l'Algérie et le Soudan sont prévus lors de ce stage. De son côté, la Guinée se dit prête après un dernier match amical hier. L'AP Bangoura a son idée sur ses 23 pour aller au Maroc. Le Oroya, plus grand club du pays, aligne 7 joueurs dans cette liste. Au Burkina Faso, Drissa Traoré Malo, dit saboteur, a dévoilé aujourd'hui une liste de 25 étalons pour entamer la préparation du CHAN 2018 qui, on le rappelle, se déroulera au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018.
Et moi, je ne me lasse pas de ce surnom, saboteur. Un coup de raquette pour terminer. Yacouba Murray qui signe son retour, mais sans grand bruit.
Effectivement, Anna, un petit set sur la pointe des pieds. Le Britannique Andy Murray, ex numéro 1 mondial, retombé à la 16e place et absent des coups depuis juillet. en raison d'une hanche douloureuse, a disputé aujourd'hui à Abu Dhabi un set qu'il a perdu 6-2 face à l'Espagnol Roberto.
Yacouba Ouédraogo, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Deuxième partie du Monde aujourd'hui, place au dossier du jour. Au moins 12 personnes, dont 4 enfants, sont mortes hier dans l'incendie d'un immeuble d'habitation dans le quartier du Bronx à New York. C'est le pire incendie depuis un quart de siècle. C'est ce qu'a affirmé le maire de New York, Bill de Blasio. Le feu s'est rapidement propagé du rez-de-chaussée aux 4 étages de cet immeuble de briques, comme il en existe des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements. Et pour un témoignage, John Lyndon a joint à New York Alpha Issiaga Diallo, un habitant.
Ça, c'est dans le Bronx. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'il y a eu un incendie comme ça, mortel, en 1990. On se souvient, il y a eu un incendie, 87 personnes avaient perdu la vie là-bas, à quelques mètres de là où l'incendie aujourd'hui encore s'est produit. C'est dans le Bronx, c'est Prospect Avenue et la 183e Street dans le Bronx. Il y a eu l'incendie hier vers 9h du soir et l'incendie n'a pas été maîtrisé très tôt. Il y a eu 12 morts, il y a 4 blessés graves et jusqu'à présent, l'auteur du crime n'a pas été jusqu'à présent arrêté, mais l'investigation continue. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas au courant d'une communauté, en tout cas africaine, touchée, mais pour le moment, c'est l'investigation. Vous savez que c'est la nuit, ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a plus de 400 pompiers qui ont été déployés. Le feu a été difficilement maîtrisé, mais tout est dans l'ordre maintenant. Je crois que Bronx est en train de pleurer leur mort.
Alors, vous parlez de l'auteur, il s'agit donc d'un incendie criminel, c'est ça?
Non, pour le moment, on ne peut absolument rien prononcer. L'investigation est en cours. On aura en tout cas une situation claire, car même le maire, le gouverneur de New York, chacun a donné son point de vue. Aujourd'hui, le lieu est complètement bouclé. On ne peut pas s'y rendre. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai dit, on est en train de pleurer les morts. 12 morts, 4 blessés graves et encore la Croix-Rouge est en train de donner de logements à ces... parce que c'est un grand building qui a pris feu et je crois que les gens sont en train d'être éparpillés partout dans le Bronx pour les reloger, car vous savez que c'est l'hivernage qui est là, il fait excessivement froid.
Alors, vous dites que l'incendie s'est produit dans le Bronx. Pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, c'est quel genre d'agglomération et l'immeuble en lui-même était-il vieux ou c'est nouvellement construit?
Pour le moment, on se méfie de donner des détails. Vous savez que la police américaine, elle est un peu stricte. Certains parlent qu'il y avait des défaillances. On ne sait pas ce qui va se révéler, mais l'essentiel qui est là, même si c'est un vieux building, vous savez qu'aux États-Unis, à chaque fois, on repart et on rentre toujours, on peine, on met tout dans des conditions. Mais quand même, il y avait eu quand même quelques soucis, en tout cas, quelque part, avant ce jour-là. Mais l'essentiel qui est là, la police de New York est en train de mener les enquêtes pour traquer ceux ou celui qui, en tout cas, l'auteur du crime, soit... Le propriétaire du building peut être un peu touché parce que compte tenu de la maintenance, mais on ne sait pas pour le moment.
Alpha Issiaga Diallo, un habitant de New York. Au Libéria, le candidat malheureux du second tour de la présidentielle de mardi a concédé sa défaite. Joseph Boakai a félicité son adversaire, George Weah, et a demandé à ses partisans de respecter le verdict des urnes. Le vice-président sortant s'est exprimé dans un message solennel à la Nation. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Monrovia un ancien journaliste de la Radio Nationale, Mohamed Kenneth.
Tous les Libériens ont accepté ce discours avec réconciliation, avec paix et avec bonheur. Parce que quand on regarde le passé du Libéria depuis décembre 1989 jusqu'en 2003, juste quelques jours avant le départ de M. Taylor, le Libéria a été un pays qui a été traumatisé. Il y a eu presque 250 000 morts. Donc la paix est revenue en 2005, il y a eu des élections. Et il y a maintenant 12 ans que vraiment on n'a pas eu de guerre. Donc les gens craignaient que les partisans, les sympathisants du Parti de l'Unité, de M. Boakai, n'allaient pas accepter cette victoire. Mais heureusement, non, ce n'est pas le cas. Par la voix du vice-président M. Boaka et candidat à la présidence de l'UP, tout le monde est content, même les partisans de M. Ouya.
Est-ce que Jojo Ouya a déjà répondu à son discours
Bien sûr, il n'a pas encore répondu officiellement, mais il a fait un tweet. Il a fait un tweet dans lequel il dit que franchement, ça lui fait très bon au cœur que les Libériens, 62 ou 63% des Libériens l'ont élu président de la République et qu'il promet qu'il y aura un changement. Il a fait ce tweet-là il y a une ou deux heures, mais pas d'abord le discours officiel. Donc on attend. Une nouvelle que je viens d'avoir il y a deux heures de temps, on dit qu'avant la tombée de la soirée, il va faire un discours. Donc nous attendons.
Est-ce que la victoire de Ouya a-t-elle surpris, surtout dans les milieux intellectuels?
Là, je dis non. La plupart des intellectuels, il y a eu plein d'intellectuels qui ont quitté les autres partis politiques pour rejoindre M. Ouya. Il y en a qui disaient, oh non, ce n'est pas un homme éduqué, ce n'est pas un homme instruit, il est né dans un bidonville, il a grandi, c'est à cause du football qu'il est devenu très célèbre. Mais ces soi-disant intellectuels-là se sont rendus compte après qu'il faut accepter sa victoire. Donc la position de la plupart des intellectuels, c'est qu'ils sont tous d'accord de se mettre à disposition du nouveau président afin de transformer le Libéria.
Hélène Johnson-Sirleaf a-t-elle encore dit quelque chose?
Pas encore.
Et quelles leçons faut-il tirer de cette élection?
Il faut que les politiciens sachent maintenant que les gens, les Libériens ont les yeux grands ouverts. Ce n'est plus comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans où les politiciens pouvaient dire n'importe quoi et puis passaient inaperçus, personne ne tenait compte de cela. Maintenant, je te dis que depuis les premières élections de 2005, suivies des élections de 2011, les deux élections sénatoriales spéciales de 2014 et celles de 2010, et maintenant la récente élection-là, tout le monde sait que le droit de vote est très important et qu'à travers l'élection, on peut détrôner quelqu'un ou bien on peut le mettre sur place. Donc la vérité est que vraiment le peuple a su que c'est très très important de renforcer la démocratie à travers les élections. C'est la grande leçon que l'on peut tirer de ce qui s'est passé.
Mohamed Kenef, ancien journaliste de la Radio Nationale au Libéria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République centrafricaine, rackets et corruption sont monnaie courante sur la voie publique. Les usagers s'en plaignent, ils accusent directement les groupes armés et les agents de l'État en service sur les barrages routiers. C'est un reportage à Bangui de Freeman Sipila.
Aujourd'hui, circuler sur les axes routiers en dehors de la capitale Bangui devient de plus en plus agaçant. Les hommes armés tiennent des barrages routiers dans toutes les zones sous leur contrôle. Ils imposent des taxes et des frais aux usagers, ce qui leur fait des millions de dollars chaque année. Dans les régions contrôlées par le gouvernement central, les usagers accusent directement les agents de l'État de corruption et de rackets. Ils pointent du doigt les services des eaux et forêts, les policiers, gendarmes et douaniers. Ici, sur la route de Boili, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bangui, les pousseurs de bois de chauffe reviennent à la queue leu-leu. Fatigués, épuisés par le volume du chargement de leur pousse-pousse, Jean-Claude, l'un d'entre eux, couvert de sueur, vient d'être racketté par un agent des eaux et forêts. Il est très irrité.
Il nous menace par voie quand on arrive au niveau du barrière. Il nous impose de déposer les wagons. Nous sommes en train de transporter pour chercher nos pain quotidien. Pour moi, en tant qu'un être humain, l'enfant du pays, je demande à notre gouvernement de nous donner de main forte.
Ce phénomène est connu de tous sous l'appellation de formalité. Selon les passagers, donner l'argent est devenu aujourd'hui une règle lors des contrôles routiers. Au PK26 de la capitale, un véhicule de transport en commun vient de passer deux heures devant une barrière.
Le propriétaire explique.
Les douaniers m'ont perturbé beaucoup pour mes marchandises. Souvent quand j'arrive au niveau de PK26, même j'ai mon TL, ils vont me demander les papiers. Parfois même, je leur présente mon papier, ils me demandent l'argent. C'est notre pays. Si on ne fait pas, on reste au quartier. Ils vont nous dire qu'on est des voyous, on est des rebelles, on est des balakas ou bien des sélékas. Comment on va faire?
Adolphe, 33 ans, conducteur du taxi moto, appelle les autorités à la responsabilité. Nous avons beaucoup souffert après ces événements qui ont secoué le pays. Nous demandons au gouvernement de nous envoyer des vrais agents pour nous sécuriser. Ceux qui sont sur les barrières ne veulent comprendre personne. Ils nous demandent des papiers. Lorsque nous leur disons que nous avons perdu tous nos papiers dans les pillages ou l'incendie de nos maisons, ils ne veulent rien comprendre. Ils nous imposent de payer 500 francs pour les formalités avant de partir. Si tu n'en as pas, ils te maltraitent. Ils te demandent de rester debout sous le soleil. Nous sommes des pères de famille. Moi, je trouve cela anormal. La quasi-totalité des agents de l'État rencontrés sur les barrières n'ont pas souhaité s'exprimer, prétextant n'avoir pas l'autorisation de leur hiérarchie. Freeman Sipila, Bangui, VOA.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Lionel Gaïma, assisté à la console de Patrick Deya. Je suis Anastasie Tudiech et vous souhaite une très bonne fin d'année puisque c'est la dernière fois que nous parlerons pour 2017. Mais l'information continue sur VOA Afrique et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont élargi leur offre de récompenses pour des informations sur les principaux dirigeants d'organisations terroristes, notamment les dirigeants d'un groupe menant des attaques contre des installations gouvernementales et d'autres cibles dans le nord du Nigeria. Aboubakar Shekau est le chef du groupe communément connu sous le nom de Boko Haram, une organisation extrémiste basée au Nigeria qui cherche à renverser le gouvernement actuel et à le remplacer par un régime basé sur une interprétation stricte de la loi islamique. Des liens établis avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda et Al-Shabaab ont renforcé la capacité de Boko Haram à mener ses attaques. Auparavant, numéro 2 du groupe, Shekau en a pris le commandement général en juillet 2010, exprimant sa solidarité avec Al-Qaïda et menaçant les États-Unis. Un attentat à la bombe contre le bureau des Nations Unies à Abuja en août 2011 a marqué la première opération meurtrière du groupe contre des intérêts occidentaux, tuant au moins 23 personnes et en blessant 80 autres. En avril 2012, le groupe a fait exploser une bombe au siège d'un journal nigérian à Abuja et a ensuite menacé d'autres médias locaux et internationaux, notamment la Voix de l'Amérique. Sous sa direction, le groupe a kidnappé des centaines d'enfants pour servir d'otages, de porteurs et même de combattants. Shekau est grand, mince, au teint foncé. Il est né à Yobe, au Nigeria, entre 1965 et 1975. Et appartient à l'ethnie Kanuri. Il parle arabe, Haoussa, Peul et Kanuri. Il est connu pour avoir utilisé les alias Habu Bakri Sekikwa et Imam Habu Bakri Shiku. Le programme Récompense pour la justice offre une récompense allant jusqu'à 7 millions de dollars pour toute information permettant de localiser Shekau. Les États-Unis promettent que toutes les informations crédibles feront l'objet d'enquêtes et que l'identité de tous les informateurs restera confidentielle. Le cas échéant, les États-Unis sont prêts à les protéger, eux et leurs familles. Si vous avez des informations sur Aboubakar Shekau, contactez l'ambassade ou le consulat américain le plus proche ou envoyez un conseil à www.rewardsforjusticeu.net ou envoyez un courriel à info@rewardsforjustice.net. Vous pouvez également appeler la ligne d'astuces récompense pour la justice au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.